Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Art Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié pour la première fois en 1992 et réédité en français dans une version augmentée. Diana, racontée par elle-même d'Andrew Morton, occupe une place singulière parmi les biographies royales. L'ouvrage repose sur des confidences enregistrées de Diana. Princesse de Galles, recueillie indirectement et longtemps dissimulée au public, puis mise en forme et contextualisée par le journaliste. Il ne s'agit donc pas d'une autobiographie écrite de sa main au sens strict, mais d'un récit biographique fortement nourri par sa parole, complété par des témoignages et par le travail narratif de Morton. Le livre examine l'écart entre l'image publique de la princesse du peuple et son expérience intime enfance marquée par l'insécurité affective, mariage avec le prince Charles, isolement au sein de l'institution monarchique, troubles alimentaires et souffrances psychiques. Sa finalité dépasse la révélation sensationnelle, il donne à comprendre comment une personne très jeune, devenue symbole mondial, a tenté de préserver une voie propre sous des contraintes familiales, protocolaires et médiatiques exceptionnelles. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une parole personnelle qui renverse le récit officiel de la monarchie. La force documentaire de Diana racontée par elle-même tient à la place inhabituelle accordée à la parole de Diana, lors de la publication initiale. Le livre fut reçu comme une biographie non autorisée, alors que la princesse avait contribué, de façon clandestine, à la transmission de ses confidences. Cette situation éclaire le cœur du projet, rendre audible une expérience que son statut lui interdisait d'exposer publiquement. La réédition augmentée insiste davantage sur cette dimension en intégrant les propos issus des séances d'enregistrement, y compris certains passages rendus plus intelligibles par des techniques ultérieures. Ce dispositif ne transforme pas pour autant le texte en transcription brute. Andrew Morton sélectionne, organise et replace les déclarations dans une chronologie biographique. Le lecteur doit donc distinguer la voix de Diana de la médiation journalistique. Mais cette médiation est précisément ce qui donne une cohérence aux matériaux personnels et permet de confronter l'image institutionnelle à la perception de celle qui la porte. Le livre révèle ainsi un conflit de contrôle du récit, le palais privilégie réserve, continuité et représentation. Diana fait émerger vulnérabilité, frustration et besoin de reconnaissance. Sa portée vient moins de l'accès à des secrets que de cette remise en cause durable de la frontière entre communication royale et vécu individuel. Deuxièmement, l'enfance et la quête d'affection comme clé de lecture du parcours de Diana, Morton ne réduit pas les difficultés de Diana à son mariage ou à sa célébrité. Le récit remonte à son enfance dans la famille Spencer afin de montrer que son désir intense d'être aimé et rassuré précède son entrée dans la famille royale. Cette perspective évite de lire son parcours comme la simple destruction d'un conte de fées, elle met en relation des fragilités anciennes avec un environnement ultérieur, particulièrement impersonnel et exigeant. L'ouvrage décrit une jeune femme propulsée très tôt dans une fonction publique dont elle ne maîtrise ni les règles implicites ni les rapports de pouvoir. Cette clé biographique ne doit pas être comprise comme une explication unique de tous ses choix. Elle sert plutôt à éclairer pourquoi les marques d'indifférence, les comparaisons et la solitude conjugale prennent pour elle une importance si forte. Diana recherche dans le couple, dans la maternité et dans le contact direct avec le public des formes de liens que le protocole ne peut guère fournir. Le livre fait ainsi apparaître une tension constante entre dépendance affective et volonté d'autonomie. En montrant cette continuité, Morton compose un portrait plus complexe qu'une opposition simple entre victime parfaite et icône triomphante. La popularité de Diana dans cette lecture n'efface pas ses insécurités, elle leur donne au contraire une scène mondiale. Troisièmement, le mariage avec Charles, la collision entre union privée et fonction dynastique, le mariage de Diana et du prince Charles constitue l'axe central de l'ouvrage. Non comme chronique mondaine, mais comme étude d'une union soumise à des objectifs qui dépassent les deux époux. L'événement public promet l'accomplissement d'un imaginaire romantique. Le livre s'attache à ce que cette représentation masque différence d'âge, caractère éloigné. Attente affective divergente et présence persistante de Camilla Parker Bowles dans l'histoire du couple. Le fossé décrit par Morton se creuse dans un cadre où les relations familiales, les obligations de succession et le protocole limitent fortement la possibilité d'une confrontation intime ordinaire. Le récit souligne également que l'institution ne traite pas spontanément la détresse conjugale comme un problème personnel à accompagner. Diana se trouve confrontée à une culture de discrétion, de devoir et de hiérarchie, alors qu'elle aspire à des signes explicite de proximité et de soutien. Cette incompatibilité contribue à faire du mariage un espace de solitude plutôt qu'un refuge. Pour autant, le livre ne présente pas seulement Charles comme un adversaire individuel, il montre comment les rôles royaux peuvent amplifier des faiblesses relationnelles déjà réelles. L'intérêt analytique du livre est là, il replace une crise conjugale célèbre dans les contraintes d'une monarchie médiatique, où chaque geste privé risque de devenir affaire d'État. Quatrièmement, boulimie, tentative de suicide et souffrance psychique, rompre le silence sans réduire Diana à ses crises. Les révélations sur la boulimie et les tentatives de suicide ont contribué au choc provoqué par le livre en 1992. Elle brisait l'image lisse d'une princesse constamment souriante et donnait une visibilité exceptionnelle à une souffrance souvent cachée derrière les apparences. Morton les inscrit dans un ensemble de pressions, sentiments de rejet, détérioration de la relation conjugale, surveillance médiatique. Manque de repères et difficulté à faire reconnaître sa détresse. Le texte aide ainsi à comprendre que ces épisodes ne relèvent pas d'un simple scandale privé, mais d'une crise vécue dans un environnement où l'expression publique de la fragilité est presque impossible. Une lecture attentive doit néanmoins éviter deux écueils. Le premier serait de traiter ces éléments uniquement comme des révélations sensationnelles. Le second serait de faire de la souffrance psychique l'unique définition de Diana. Le livre montre aussi ses capacités d'action, son attachement à ses fils et son désir de reprendre la maîtrise de son existence. Sa valeur est donc de faire coexister vulnérabilité et agency plutôt que de les opposer, dans le contexte des biographies de célébrités. Cette articulation reste importante, elle rappelle que l'exposition publique ne protège ni de l'isolement ni des troubles de santé mentale, et que le silence institutionnel peut aggraver le sentiment d'impuissance. En dernier lieu, maternité, popularité et reconquête progressive d'une identité hors du palais. Les pages consacrées à la maternité et aux dernières années de Diana apportent un contrepoint essentiel au récit de la crise. Ses bonheurs avec William et Harry y apparaissent comme une source concrète d'attachement et comme un domaine dans lequel elle cherche à exercer un rôle plus personnel qu'eux. Cérémoniel, sans idéaliser sa vie familiale. Morton montre que la relation à ses fils participe à son désir d'offrir davantage de spontanéité et de proximité que ne le permet habituellement l'éducation royale. Cette dimension explique aussi son intérêt pour une présence publique moins distante, fondée sur le contact, l'écoute et l'émotion visible. La popularité de Diana est cependant ambivalente. Elle lui procure une reconnaissance que son mariage et son intégration au palais ne lui apportent pas toujours, mais elle attire également photographes et intrusions permanentes. Son souhait de vivre loin des objectifs ne traduit donc pas un refus du public. Il exprime plutôt la recherche d'une limite entre engagement public et appropriation médiatique de l'intimité. Les derniers développements du livre dessinent une femme qui tente de se libérer d'une définition exclusivement dynastique d'elle-même. Cette évolution donne au texte une portée plus large qu'un récit de rupture, il interroge la possibilité, pour une personnalité institutionnelle, de reconstruire une identité lorsque la fonction, la famille et la presse ont longtemps déterminé son image. En conclusion, Diana racontée par elle-même s'adresse d'abord au lecteur qui souhaite comprendre Diana au-delà de l'iconographie du mariage princier, des unes de tabloïd et des commémorations. Il intéressera également ceux qui étudient la famille royale britannique, l'histoire médiatique de la fin du XXe siècle ou les rapports entre célébrités, santé psychique et communication institutionnelle. Sa lecture demande une certaine distance critique. Andrew Morton construit un récit à partir de confidences personnelles et d'un travail biographique. Et le livre ne saurait constituer à lui seul une histoire exhaustive de la monarchie ou de tous les protagonistes. Cette limite n'enlève rien à son intérêt. Elle précise sa nature de témoignage médiatisé, centré sur la perception de Diana. Par rapport aux biographies royales plus conventionnelles, l'ouvrage se distingue par l'accès à une parole intérieure qui fut, à l'époque, tenue secrète. Là où beaucoup de livres privilégient le protocole, les événements publics ou les rivalités de cour. Celui-ci relie ces éléments à l'expérience affective d'une femme placée sous une pression extraordinaire. Il permet ainsi de lire autrement des faits très connus, non comme une succession de scandales, mais comme les manifestations d'un conflit entre personnes, couples, institutions et médias. La réédition enrichie, qui restitue plus directement les enregistrements, accentue encore cette singularité. Le bénéfice principal pour le lecteur est donc moins de découvrir des révélations que de saisir la complexité d'une figure publique dont l'image demeure souvent simplifiée. Tantôt en martyr, tantôt en icône. Morton restitue une Diana contradictoire, vulnérable et déterminée à retrouver une marge de décision. Si vous souhaitez soutenir Andrew Morton, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.